Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Alain Decaux, qui vient de publier chez Plon, dans l'excellente collection des dictionnaires amoureux, Tendre Dumas. C'est le 39e ouvrage publié par Alain Decaux, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française le 13 mars 1980. Alain Decaux, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Alors en fait, vous avez découvert Alexandre Dumas à l'âge de 11 ans?
Oui, très exactement, ce qui doit être assez rare, parce que j'entrais en 6e, très exactement, oui. Et j'étais au lycée de Lille, nous sommes Lillois, les Decaux, et du Nord, depuis toujours, et je cours à la récréation, c'était à l'époque les policiers, les voleurs, j'étais un voleur. Et je voyais que je prenais de l'avance sur les policiers. Et tout à coup, un très très mal dans le ventre. Je suis obligé de me courber. Et en fait, le médecin de famille dira, c'est une appendicite. Il faut tout de suite l'opérer. Alors, on m'a emmené à l'hôpital. J'ai été opéré. Ça n'était pas une appendicite. C'était une péritonite, ce qui, à l'époque, était très grave. Il n'y avait pas tous les médicaments. Il n'y avait pas les... Enfin, tout ce qui permet... Et là, j'ai été entre la vie et la mort pendant plus d'un mois. Et mon grand-père, qui était instituteur à la retraite, m'apportait beaucoup de livres chaque semaine. Et un jour, il m'apporte 6 volumes. Je dis « bon papa », parce qu'on disait « bon papa, bonne maman ».« bon papa, mais pourquoi ? Et qu'est-ce que c'est cette histoire ? Le comte de Monte-Cristo ? Et ce Dumas, qui c'est ? Ah, je lui dis, ben, tu vas voir. Et pourquoi 6 volumes ? Mais alors, il me dit, tu vas voir, c'est une même histoire en 6 volumes. Et j'ai lu chaque volume, j'ai mis un jour à lire.
Chaque volume.
Au bout d'une semaine, j'avais lu entièrement le comte de Monte Cristo, et j'étais acquis pour ma vie à l'auteur qui s'appelait Alexandre Dumas.
Alors, il y a une coïncidence heureuse, c'est que vos initiales sont les mêmes. Et ça, vous avez eu une anecdote assez étonnante, quand vous aviez 16 ans ou quelque chose comme ça.
Oui, nous étions, la guerre nous avait chassés du Nord, on ne pouvait pas y rentrer parce que c'était zone interdite pour les Allemands, on ne parle jamais de cette troisième zone, et ces zones interdites, même ceux qui étaient nés là-bas et qui avaient quitté, les Allemands leur interdisaient. Nous sommes devenus parisiens, et voilà, parisiens c'était différent, j'ai fini mes études à Janson-de-Sailly.
Et vous aviez donc l'occasion de vous promener, et un jour, vous tombez sur un château.
Oui, en fait, mon père était un marcheur. Il aimait marcher, alors dès qu'il a fait beau, il m'a emmené dans tous les environs de Paris, et nous sommes allés à Saint-Germain-en-Laye, et puis on est parti dans la campagne, et là, on a trouvé une petite route à droite, qu'on a pris, on ne connaissait pas, on aimait ça, ne pas connaître. Et sur la gauche, on a vu une grille. Derrière la grille, il y avait un château de type Renaissance. Mais cette Renaissance était visiblement du 19e siècle. Et puis, à droite, il y avait un autre bâtiment qui était médiéval, mais aussi du 19e siècle. Et sur la grille, les initiales du propriétaire, AD. Et mon père s'arrête, éclate de rire et me dit « Mais Alain, c'est tes initiales, ce sont tes initiales !» Ah, j'ai dit oui, et il a fallu que nous rentrions à Paris pour que je me plonge dans un petit dictionnaire de la banlieue, et j'ai vu que c'était le château construit par Alexandre Dumas, le château de Monte-Cristo.
Alors, vous êtes membre de l'Académie française, lui aurait bien voulu être membre de l'Académie française, mais ça n'a pas marché, pourquoi ?
Mais c'est-à-dire qu'on a une lettre de candidature.
Très belle, hein ?
Elle est très belle,
beaucoup de tact.
Il dit qu'il apprend que 2 membres ont disparu et qu'il se propose.
C'est en toute humilité que je vous présente cette requête.
Voilà. Et il n'a pas été élu.
Il avait 38 ans, c'est ça ?
À peu près, je ne sais plus.
Et vous expliquez que Victor Hugo a voté pour lui.
Ah bah, Victor Hugo, c'était le romantisme, le patron du romantisme, et il a senti tout de suite avec Dumas qu'il avait un disciple, et plus qu'un disciple, un associé. Pour le romantisme, ils sont devenus très amis. Une seule fois, il y a eu une brouille, mais elle n'a pas duré, parce que ces gens-là ne peuvent pas être brouillés éternellement.
Alors, pas d'Académie française pour Alexandre Dumas. Par contre, réception au Panthéon, il est accueilli en 2002. Et là, vous y êtes pour quelque chose, vous, et même pour beaucoup.
Écoutez, la première étape du Panthéon a été le fait qu'on a justement essayé de sauver ce château. Depuis AD, j'étais allé voir ce château. Je l'avais visité, puisque Dumas était mon héros. Et j'ai été ravi de voir l'intérieur. Mais ce château avait bien besoin qu'on le répare. Et puis, tout à coup, j'apprends que non seulement on ne va pas le réparer, mais qu'on va le démolir. Je fais un bond, vous imaginez. Et pourquoi ? C'est que le propriétaire en avait assez, c'était un Parisien qui n'y venait plus parce que les toits étaient troués et qui avait une offre d'un groupe de gens qui étaient là pour ça.
Oui, des promoteurs.
Des promoteurs. Et il avait accepté. Et les promoteurs venaient d'obtenir pas le permis de construire, grâce à Dieu, mais le préalable. Et moi, je me dis, mon Dieu, on va démolir sa maison. Et le lendemain, je donne des coups de téléphone à tous les gens que je connais qui peuvent avoir des responsabilités. Les uns sont très lâches, je dis quel dommage. Là, il y en a qui, par exemple, le directeur du Figaro littéraire, où jeune écrivain, j'ai donné de temps en temps des articles, Maurice Noël me dit « Mais c'est épouvantable !» Ah oui. Et il a dit « Je peux vous faire faire un article dans le Figaro littéraire, mais je vous conseille de vous adresser au Figaro quotidien. Ça fera plus d'effet. » Voilà un homme honnête. Et en effet, l'article a paru dès le lendemain, et ça s'appelait parce qu'en plus c'était le bicentenaire. Et c'était abominable. Alors moi, j'écrivais l'étrange bicentenaire de Dumas, en disant qu'en général, on faisait des colloques, qu'on construisait une statue, et que là, on démolissait sa maison. Alors, ça a été très lu. Et là, les gens commençaient à réagir.
Et puis, vous avez eu un appui, quand même, le président de la République, Jacques Chirac. C'était... Il préfère lire
non,
Dumas
là, c'est pas le Panthéon, c'est pour sauver. Nous sommes
oui,
la première
mais après, pour le Panthéon. Pour voilà, le Panthéon, voilà. Vous avez eu l'appui.
Et on a sauvé ce château.
Et après, vous avez
et
eu
puis
le droit...
Après, on a créé une société des amis d'Alexandre Dumas, dont on m'a fait le président. J'avais rien demandé, mais j'étais très, très heureux. Et c'est là, justement, qu'au bout de quelques années, on s'est dit, mais pourquoi pas le Panthéon ? Voilà. Alors, le Panthéon, il faut savoir, on le sait de plus en plus, qu'une seule personne dans l'État peut décider du Panthéon ou pas. C'est le président de la République.
Et la chance, coup de chance, Jacques Chirac
lisait Dumas. Didier Decoing, qui était un Dumasien également passionné, qui était président des Amis, on s'est dit, c'est le moment, mais il faudrait savoir si Chirac aime Dumas. S'il disait, oh, mais Dumas, c'est misérable. C'est, misérable, serait... c'est pas lui,
c'est
il est
Gaulien,
misérable.
Ça, oui.
Et alors, on a la réponse, il adore Dumas.
Alors, vous avez eu un culot fou, quand même. C'est votre discours pour l'arrivée de... Parce que c'est vous qui avez fait le discours.
Non, il y avait deux discours.
Oui, bon,
c'est
enfin,
la tradition. Le président de la République fait un discours
oui,
général.
Oui, le discours attendu, c'était le vôtre. Et là, vous avez eu un culot monstre, quand même.
Ben oui, l'idée m'était venue seulement la verse. J'avais écrit mon discours. Je l'avais soumis à Chirac, c'est l'habitude. Et tout de même, je me disais, mais comment faire ? Je l'aime tellement. Je raconte sa vie, ses livres et tout. Et tout à coup, j'avais eu une idée, le matin même, et si je le tutoyais ? Alors, je vois arriver, puisque le cercueil contenant les cendres de Dumas arrive, porté par 4 mousquetaires en uniforme. C'était très beau, c'est arrivé dans un grand silence, il y avait une foule énorme, et dans la rue Soufflot. Et là, au lieu de commencer, mon texte était « Enfin, vous voilà ». Alexandre Dumas. J'ai dit « Enfin, te voilà, Alexandre. »
Ça a fait un choc, ça.
Ah oui, il paraît que Chirac a un peu scié, mais après qu'il s'est relié, de même que tout le
Soufflot. Tout le monde a...
Oui.
C'était Dumas, quoi.
C'était Dumas.
Alors, il y a une phrase que vous citez dans votre livre, moi je l'ignorais totalement. C'est une phrase de Victor Hugo au sujet de Dumas. Pourriez-vous nous expliquer quelle était l'idée de Victor Hugo quand il disait cela ? « Ce que Dumas sème, c'est l'idée française. » Qu'est-ce qu'il voulait dire ?
Eh bien, c'est que tous ces romans, parlaient pas des pièces, parce que en fait, c'était surtout les romans. Et il voulait dire par là que tout cela, tous ces mousquetaires, tous ces personnages divers à travers les âges, eh bien, sont tous particulièrement français. Il n'y a pas plus français que D'Artagnan.
Mais en quoi le panache
le... Oui, le panache, tout, le caractère, les réactions, voilà. Et ce texte de Victor Hugo, je l'ai proposé au début du livre, en guise d'avant-propos.
Oui, c'était tout à fait étonnant. Alors, pour comprendre la technique de l'écrivain, il ne faut sans doute pas oublier qu'il fut un des grands feuilletonistes du siècle. Vous le dites qu'il y en avait trois, d'ailleurs. Selon vous, il y en avait trois, il y avait Eugène Sue. L'autre, on l'a oublié, le troisième, c'est Frédéric Soulier, c'est ça?
Oui, mais enfin...
On l'a un peu oublié aujourd'hui, lui.
Oui, tout à fait.
Alors, en fait, très longtemps, Dumas a été payé à la ligne.
Oui, pratiquement. Oui, absolument.
Donc ça explique quand même pas mal de choses. Hein.
Et tous ces romans étaient publiés en feuilleton dans un grand quotidien français avant de paraître en livre.
C'est ça. Hein.
Quand les livres paraissaient, ils étaient déjà connus des Français.
Alors, il y a une chose que vous expliquez, parce qu'on a toujours reproché à Dumas les libertés qu'il a pu prendre avec la vérité historique. Mais vous nous dites, certes, les détails dans la vie des gens, c'est souvent, à côté de la plaque. Mais par contre, il a la qualité majeure de l'historien, c'est-à-dire qu'il sait camper un environnement, il sait très bien percevoir les classes sociales. C'est un véritable historien.
Oui. D'ailleurs, il adorait l'histoire. Et il lisait beaucoup d'histoire. Et c'est un historien à sa manière. Hein. Et
vous dites 20 ans après, vous dites le vicomte de Bragelonne,
bah
ce
oui.
sont des vrais livres d'histoire.
Oui. Enfin, je ne veux pas aller jusqu'à l'absolu. Revu et corrigé par Dumas.
Ah oui, revu et corrigé parce que on se souvient que le texte sur les mousquetaires, il le prétend comme émanant d'un certain conte de l'affaire. Il a existé, ce conte de l'affaire ?
Mais c'est inventé.
C'est inventé,
un des personnages. Le conte de l'affaire, c'est Athos.
Et alors, par contre, il y en a un qui a existé, c'est Courtil de Sandra,
oui.
qui a écrit les mémoires apocryphes de D'Artagnan.
D'Artagnan.
Et Dumas l'a quand même bien utilisé. Mais qu'est-ce que du vrai personnage de D'Artagnan, qu'est-ce que Dumas a gardé, en fait ? Qu'est-ce qu'il a gardé d'essentiel dans ce personnage ?
Il a gardé ce qu'on en savait, c'est-à-dire pas grand-chose.
Oui.
Enfin, celui qui a écrit les faux mémoires avait inventé. Il y avait du vrai, mais lui, il a suffi qu'il le sente pour qu'il lui donne une vérité.
Mais est-ce que c'est vrai que le vrai D'Artagnan, qui s'appelait Charles de Basse-Castelmort,
oui,
c'est quand même très
sûr,
joli, hein.
Oui.
Est-ce que c'est vrai que c'était un fidèle de Mazarin, qu'il a été protégé par Louis XIV, et que c'est lui qui aurait arrêté Fouquet ? C'est exact, ça, dans l'histoire ?
Naturellement, c'est lui.
C'est exact.
Il était capitaine des mousquetaires. Il fallait arrêter Fouquet, le grand financier du royaume, qui n'était plus dans... les faveurs de Louis XIV, et donc c'est lui qui est allé l'arrêter. Et qui l'a conduit jusqu'à la prison de Pignerolles, où Fouquet devait mourir d'ailleurs.
Mais ça, c'est moins drôle. Vous parliez à l'instant donc, des grands journaux dans lesquels ont été publiés les romans de Dumas. En fait, il avait la passion du journalisme, il a écrit des milliers de pages en tant que journaliste, et il a même eu un journal dont il était le propriétaire, enfin le Mousquetaire.
Oui.
Comment vous expliquez cette...
Écoutez, très jeune, quand il a fait la connaissance d'un ami écrivain d'origine suédoise, Leven, ils ont commencé par publier un petit bulletin. Il avait ça dans les veines, vous savez. Commencer par être journaliste, c'est pas si mal. Je dis ça parce que c'est mon cas.
Oui, ça vous a réussi, oui. Il y a attaché une grande importance, parce que Le Mousquetaire, tous les jours, il écrivait un éditorial.
Un long éditorial.
Oui. Et quelle était sa vision du monde, au fond ? Qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme idée
C'était un libéral. Évidemment, c'était un libéral. Il était le fils du général.
Oui, on y reviendra.
Oui.
Personnage très intéressant.
Oui.
Très intéressant. C'était un libéral, oui.
Mais est-ce
qu'on peut aller jusqu'à reprendre la formule de Hugo au sujet de ses papiers de journaliste ? Vous nous rendez Voltaire. Vous avez eu cette sensation, là, qu'entre Dumas et Voltaire, il y avait un parallèle possible ?
Je pourrais ajouter... Selon Hugo.
Oui, selon Hugo, c'est ça. Selon Hugo. Alors, on découvre beaucoup de choses hein, dans ce livre, comme vous savez toujours le faire. En fait, Les Trois Mousquetaires, le titre, ça n'est pas de lui.
Non, ça n'est pas de lui.
Ça alors,
l'histoire, l'histoire était terminée, écrite, il l'avait vendue à un journal, et ça allait circuler lorsque l'un des directeurs du journal vient le voir.
Un dénommé Desnoyé, c'est ça, complètement inconnu
absolument,
aujourd'hui.
Absolument. Lui dit, mais écoutez, vous appelez ça... Athos, Porthos, Aramis. Nous l'avons annoncé tous les jours. Et tous les jours, nous avons des protestations. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas nous envoyer encore dans les trois parcs. On n'en veut plus des trois parcs.
Ah non, c'était ça la confusion.
Oui, oui. Alors trouvons-nous autre chose.
Oui, oui.
Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne suis pas vraiment esclave du titre. Hein, c'est l'histoire que j'ai fait. Eh bien, dit oui, pourquoi pas les trois mousquetaires? Et du mal, selon lui, c'est qu'ils sont quatre.
Ils sont quatre, oui.
Oh, alors... Non, les trois mousquetaires. On l'a forcé à appeler son livre « Les trois mousquetaires ».
Et autre chose que vous racontez également, est-ce qu'il faut croire Dumas lorsqu'il explique que l'origine du comte de Monte-Cristo, ce serait un voyage rocambolesque qu'il aurait effectué en 1842 à l'île d'Elbe avec le prince Napoléon?
Oui, oui.
C'est vrai, cette histoire?
Naturellement, sûrement. Quoi qu'il y ait un détail que je développe. Parce que la déneveu de Napoléon, le fils du roi Jérôme, ils étaient tous en exil, avait dit à son père « Je ne connais pas l'île d'Elbe ». Et Jérôme avait dit à Dumas, « Mais cher Dumas, vous allez emmener mon fils à l'île d'Elbe. » Et ils étaient partis tous les deux sur un petit bateau qui a failli chavirer 20 fois. Et puis, on visitait l'île d'Elbe. Ensuite, en revenant, on a vu une île. Il a demandé aux rameurs, car c'était des rameurs, vous imaginez. On a demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, c'est l'île de Monte-Cristo. Alors, là-dessus, le jeune prince a vu Dumas prendre son carnet et écrire « Île de Monte-Cristo ». Il dit « Mais enfin, Dumas, qu'est-ce que vous allez faire de ça ?» C'est dit « Peut-être un livre que je publierai un jour ».
Et l'île était en quarantaine.
Oui, alors les rameurs ont dit « On ne peut pas, parce qu'on va rester plusieurs jours. Personne ne voulait, ils n'y ont pas abordé. » Voilà. Et en fait... Dumas fait beaucoup de conférences dans sa vie, il aimait ça, les gens aimaient l'écouter, il avait tous les dons. Et Dumas raconte cette histoire-là, quand il explique Monte Cristo. Et puis, dans une des conférences, il termine, « Voilà ce que j'ai l'habitude de dire, bien malin celui qui rejoindra la vérité. » Et c'est ma femme... photographe depuis toujours, Micheline Pelletier, qui a été frappée avec d'autres et qui a cherché, puisque c'était justement le moment où Dumas est allé au Panthéon, et elle a fait un reportage là-bas et elle a trouvé à Saint-Domingue l'île de Monte-Cristi. C'était le père, le grand-père de Dumas, et évidemment c'est de ça qu'il parlait. C'était pas dans son enfance, sa mère, enfin toute sa famille.
Donc ça avait encore plus de valeur symbolique. Quoi.
Voilà, voilà.
Homme politique, écrivain, journaliste et même rugbyman, retrouvez le parcours exceptionnel d'Arthur Comte, un homme libre raconté par sa fille Dominique Bonnat. Entre les couloirs de l'Assemblée ou de l'ORTF, plongé dans la culture catalane. Téléchargez dès à présent l'émission consacrée à Arthur Comte sur canalacademy.com.
On dit toujours tarte à la crème à propos de Dumas, la démesure, l'homme, les passions, les livres, les collaborateurs, tout ça. Mais pour vous, en dehors de ce trait de caractère, qu'est-ce qui le caractérise profondément, Dumas? Comment vous voyez l'homme, Dumas? Qu'est-ce que vous avez à nous dire de l'homme, Dumas?
D'abord, c'est un immense travailleur. Parce que tous ceux qui l'ont connu, y compris son fils, le montrent à sa table de travail dès le matin, très tôt, travaillant. Et on donne des détails, on dit que quelqu'un, il avait beaucoup d'admirateurs qui sonnaient chez lui. Alors ils entraient et il posait sa plume pendant 10 minutes. Il était très courtois et l'intrus, une fois parti, reprenait sa plume et reprenait la phrase exactement à l'endroit où elle était.
C'est vrai, il était capable. Il avait...
Ah, mais c'est un personnage, mais c'est un immense travailleur. Comment voulez-vous? Même avec
ça,
Auguste,
ouais.
Mackey, qui a été son collaborateur pendant une partie de sa vie, ça ne vous allez pas dire que c'était Mackey qui écrivait les livres de Dumas. C'était une association. Eh bien, voilà, il ne pouvait pas faire toute cette œuvre énorme,
oui.
Parce qu'il y a les pièces de théâtre.
Oui, parce qu'en plus, il n'avait pas la vie de Kant, hein. Il n'était pas perclus dans sa chambre, lui.
Et non, mais il pouvait tout faire.
Voilà. Alors, on parle de démesure. À vrai dire, sur le plan de son histoire personnelle, ça n'est pas une surprise. Quand on voit qui était son père, vous l'évoquiez il y a quelques instants, son père était un homme fabuleux, extraordinaire.
Et oui, c'était un... Il est devenu général parce qu'il s'est engagé, le père. Il était d'une famille noble, les David la pailleterie.
Oui, mais enfin, avec un mélange. Hein. Le père était marquis et la mère était esclave, c'est ça, hein, non?
Oui, mais un marquis, oui, si on veut. Il avait pris le titre de marquis, enfin, il y avait droit.
Il y avait droit, mais et il l'a pris.
Il l'a pris en même temps. Et à Saint-Domingue, ça, c'est pas son père, mais c'est son oncle, était engagé dans l'armée et a fait son début de carrière à Saint-Domingue, a épousé la fille d'un producteur de sucre. Ça, c'est ça, Saint-Domingue. A fait fortune, et là, tout commence. Parce que Charles, donc, qui a fait fortune, c'est son frère aîné, le marquis, qui est venu s'installer chez lui, mais pour vivre tranquillement, sans rien faire. Finalement, le cadet a appris qu'il avait fait dette dans toute l'île, l'a chassé. Et l'autre, partant ailleurs, achète des esclaves, dont une très belle femme noire, Marie-Césette Dumas. Dumas, c'était probablement qu'elle était née comme beaucoup d'esclaves dans une ferme, Dumas, le Mât. Elle lui a donné 4 enfants, et puis lui a voulu rentrer en Normandie, au pays de Caux, pardon. Hein? Et il n'avait pas assez d'argent pour payer le voyage. Il a vendu sa femme et ses esclaves, ce qui est vraiment scandaleux et épouvantable. Ce n'était pas le cas à l'époque. Ça ne faisait signer personne. Ben, l'esclave est un objet dans les traités. Et donc, il est parti avec quand même une réserve dans le contrat, c'est qu'il pouvait faire revenir son fils préféré en payant dès qu'il pourrait payer. En Normandie, il a retrouvé des moyens et il a racheté son fils qui est devenu le général Dumas.
Alors, il y a une chose extraordinaire dans la vie de ce général, c'est l'une des rares personnes qui osait tenir tête
à Bonaparte. Ah oui, oui, oui.
Et qui, en plus, il avait un certain sens de l'histoire, parce que la campagne d'Égypte, c'était pas sa tasse de thé, à lui.
C'est évident que... Mais avant la campagne d'Égypte, oui. Il faut savoir que ce dragon qui s'est engagé parmi les dragons de la reine...
Et qui était mulâtre, hein.
Qui était moitié-moitié, mulâtre, oui. Le hein, mère noire, père blanc. Mulâtre, eh bien, lui a dit à son père, je m'engage. Et le père dit, ben, c'est ton droit, mais attention, moi je suis marquis de la pailleterie, tu ne vas pas salir mon nom. Eh bien, je m'engage sous un autre nom, a-t-il dit, Dumas. Et moi je dis dans le livre que chaque fois que j'évoque cette affaire, je suis ému, parce que c'est formidable. Il choisit le nom de sa mère esclave plutôt que le nom de marquis. Et il sera Dumas pendant toute sa vie. C'est pas, Alexandre Dumas n'est pas le premier, c'est le fils du général Dumas qui a commandé l'armée des Alpes, ce qui n'est pas rien. 2-3 armées importantes, il gagne une bataille à côté de Bonaparte, géographiquement, et c'est pourquoi Bonaparte lui demande de venir en Égypte avec lui. Il est général, il est vice-grand-fils, mais il est critique.
Oui, très très vivement, hein. il ne mâche pas ses mots. Hein.
Il se dit, mais pourquoi on est ici? Et il laisse soupçonner que finalement, ce Bonaparte ambitieux veut se tailler un royaume. Sa taille, c'est chose de dire. Et ça ne plaît pas du tout à Bonaparte. Il se brouille. Et lui s'en va, rentre, il est fait prisonnier par les Napolitains en Méditerranée, qui sont les ennemis de la France à l'époque. 2 ans de prison où il attrape toutes les maladies. Rentre à Villers-Cotterêts, où il est marié avec la fille d'un aubergiste. Il a déjà une fille.
On va en parler, ça, parce que c'est une belle histoire.
Oui, oui.
Mais Bonaparte ne s'est pas très bien comporté avec lui, après.
Non, non. C'est un homme qui n'aimait pas qu'on le contrarie. Il ne fallait pas contrarier Bonaparte.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
Eh bien, donc, il sort de prison, notre ami. Il arrive à Villers-Cotterêts, il retrouve sa femme, sa petite fille. Et preuve qu'il n'est pas... La maladie ne l'a pas atteint dans ses profondeurs. C'est que bientôt, sa femme attend un autre enfant. Un garçon. Il va naître un garçon. Chose étrange, pour le fils d'un mulâtre, il a les yeux bleus. Mais ce sont les yeux de sa mère. Voilà. Et Alexandre Dumas, le fils, va admirer son père toute sa vie. C'est l'exemple à suivre, alors qu'il n'avait que 4 ans quand le père mourut.
Et alors, donc, son père a vécu avec sa mère une superbe histoire d'amour. Malheureusement, il n'a pas pu vivre avec elle de nombreuses années. Je crois que c'est 6 ans, quelque chose comme ça,
oui,
le général Dumas.
Oui, oui. Non, non,
très peu.
Non, non, cette maladie l'a tué.
Et il a eu beaucoup de mal à se séparer de sa mère, Alexandre.
Il a grandi avec sa mère. Et il a grandi avec une mère extrêmement pauvre. Il a grandi
de plus en plus pauvre.
Dans la misère. Dans la misère parce que, logiquement, la veuve d'un général, surtout qui s'était battu beaucoup, qui avait gagné des batailles, devait avoir la retraite. Et Bonaparte a refusé qu'on donne la retraite à la femme.
C'est pas très beau,
Au maréchal Brune, qui était un ami de Dumas, qui était venu dire à Napoléon, mais sire, il est tranquille quand même, il a fait beaucoup pour la République, pour la France. Il dit, ne me parlez plus jamais de cet homme-là. Alors c'était la misère, et ils ont vécu. Il a été clerc de notaire, 2 fois, 1 fois sans vraiment qu'il fasse rien de brillant. Pour le second clerc de notaire, il était vraiment clerc de notaire. Pourquoi était-il clerc de notaire? Parce qu'il avait une belle écriture. Et c'est ce qui va le sauver. Quand il arrive à Paris, il faut quand même qu'il vive. Et lui qui veut faire venir sa mère, il n'a pas un sou. Et là, pour vivre, il rencontre un ami de son père, le général Foy, qui est député et qui est libéral aussi. Et le général Foy, c'est pas quoi le trouver comme métier. Vous avez fait du droit? Non. Est-ce que vous, un peu de mathématiques? Non. Vous connaissez l'anglais? Non. Et alors il écrit, mais mon général, mon éducation a été complètement ratée. C'est seulement de ce jour que je m'en rends compte. Alors Foy dit, mais écoutez, on va trouver, venez ici, le temps s'applime, et écrivez votre adresse. Alors il a une adresse provisoire, il écrit, et Foy dit, nous sommes sauvés. Et alors il est affolé, pourquoi? Vous avez une belle écriture. Et c'est comme ça qu'il le recommandera au duc d'Orléans, dans son palais royal, le futur Louis-Philippe. Oui, oui. Oui, il a une belle écriture pour tout... Engagez-le. Pendant des années, il a vécu de son écriture, mais il a dit, je vis de mon écriture, mais un jour, je vivrai de ma plume.
Et c'est ce qui est arrivé, et à ce moment-là, sa mère était très très malade, et il s'est comporté en fils exemplaire. Enfin, vous racontez ça, c'est tout à fait étonnant, en fait.
Oui, parce qu'il a écrit d'abord des pièces. Il était d'ailleurs, les pièces de Dumas, se jouent plus du tout, contrairement à ce qu'il avait cru. Il a dit, je survivrai par mes pièces, mais mes romans sont sans importance. C'est tout à fait le contraire. On ne joue plus ces pièces, mais on lit toujours ces romans.
Enfin, il y a Kean quand même qu'on joue de temps en temps depuis que Sartre.
Sartre a dépoussiéré. C'est une adaptation. Oui.
Donc, pendant que sa mère était malade, il allait la voir tous les jours. Alors quand même qu'il avait,
tous
à cette époque-là, il était
jour
célèbre.
Où une de ses premières pièces qui avait été retenue par la Comédie française avait été jouée. Elle a été frappée par une apoplexie. Et pendant même les répétitions, heureusement, la Comédie française n'était pas très loin du Palais Royal, et il interrompait, et même le soir de la première, il a quitté la première et cessé de contrôler ses acteurs devant une foule énorme. Et il courait, il embrassait, il revenait assister à la représentation. Et voilà.
Alors on peut dire que sa mère a vraiment été la femme de sa vie. Avec d'autres, il n'a pas quand même toujours été aussi élégant. Vous racontez par exemple une passion extraordinaire avec l'une des plus grandes cantatrices du 19e siècle, ce qui est Caroline Unger.
Ah oui.
Et vous racontez comment, à la fin de leur liaison, c'était en 35-36, pendant 5 mois, elle lui a écrit tous les jours, et Dumas, comme un mufle, ne répondait pratiquement jamais.
Oui, était-ce comme un mufle?
Non.
Non, je ne crois pas, non. Parce que
j'exagère.
Il y a chez Dumas...
Pardon, au cendre
une,
de Dumas.
On ne voit pas ce géant, parce que c'était un géant. Une force
comme
de
son
la
père, quoi.
Une force
père.
De la nature. Mm-hmm. On ne le voit pas se conduire comme un mufle. En fait...
Il en avait assez, quoi.
Oui, mais en fait, il était toujours fidèle. Vous savez, il y a parmi les sources la comtesse d'Ache, qui l'a connu beaucoup et qui a écrit beaucoup sur lui dans 2 livres. Et il dit, il a eu énormément de maîtresses. Il y a peu d'hommes, on en a eu autant. Et à chaque fois, les maîtresses le quittaient, tant mieux, dit la comtesse d'Ache pour lui. Parce qu'il les aurait gardées toutes. Alors, pour lui, il avait retrouvé Marie Dorval en rentrant en France, etc. Mais ce n'était pas méchant de sa part.
En tous les cas,
on va dire que je suis vraiment trop indulgent.
Et
mais moi, je suis indulgent pour Dumas parce que je l'admire.
Je retire ce que j'ai dit.
Mais non, vous ne le retirez pas.
Mais je retiens quand même cette dernière phrase de cette Caroline Unger dans la dernière lettre. C'est quand même étonnant. Recevoir ça quand on est un homme, ça quand même, ça vous touche. Adieu, soyez heureux, voilà tout ce que je désire au monde.
C'est vrai qu'elle l'adorait.
Fabuleux quand même.
Mais alors, je peux dire aux gens qui seraient malheureux comme elle, qu'elle a quand même trouvé un mari et sa vie s'est terminée avec ce mari avec beaucoup de bonheur.
Mais il faut dire qu'elle était quand même, c'était l'une des grandes grandes stars de
ah
son
oui,
époque. Quoi.
Elle a créé tous les grands compositeurs.
Beethoven et, ah oui, et ainsi de suite.
Énorme.
Oui. Pardonnez-moi de vous dire ça parce que vous avez peut-être tombé des nues, mais est-ce que vous n'avez pas fait pour l'histoire dans l'audiovisuel et pour créer la passion de l'histoire, vous, est-ce que vous n'avez pas fait dans l'audiovisuel ce que Dumas a fait dans l'écrit, sans oublier les 39 livres que vous avez écrits, hein? Parce que l'audiovisuel, quand
je
même...
Je me permets de vous dire que c'est pas mal, plus de 39.
C'est pas mal, hein?
Oui.
C'est pas mal. Mais la Tribune de l'Histoire, 51, en 56, La Caméra explore le temps, 69, Alain Decaux raconte. Vous nous avez donné la passion de l'histoire.
Oui, mais honnêtement, ça n'était pas pour copier Dumas.
Non, certes.
Je n'y ai pas pensé parce que là, je ne me suis jamais permis d'à peu près.
Oui,
ce
c'est ça.
Ce que
c'est
je
ça.
Racontais, ce que j'écrivais... C'était toujours la vérité historique.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazeaud, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Dans le discours de réception à l'Académie française, André Roussin, il raconte quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il disait « je comprenais pas comment Decaux pouvait ainsi accumuler les détails, et je me disais, il fait du Dumas ». Et il raconte dans ce discours donc, de réception à l'Académie française, vous devez vous souvenir de ça, à propos de l'évasion de Mussolini. Lorsque Mussolini arrive à l'île de Ponza, il est dans une petite chambre tout à fait anonyme, et vous décrivez la chambre avec un maximum de détails. Et Roussin se dit quand même, il pousse un peu dans les orties, il exagère. Et en fait, vérification faite, il s'est avéré que vous aviez trouvé un document, c'est ça,
qui racontait,
était vrai.
Tout était vrai. Il y a mieux encore, c'est qu'il a passé la dernière nuit, Mussolini, avec un douanier comme interlocuteur. Et il n'a pas dormi. Et pendant toute cette nuit, Mussolini a défendu sa politique devant un seul douanier. Il allait mourir quelques heures après. Mais moi, mon livre n'est pas sur Mussolini.
Alors, je ne dis pas que votre vie est analogue à celle de Dumas, mais il y a quand même un épisode dans votre vie que Dumas aurait pu utiliser, quand même tout à fait rocambolesque. Quand vous aviez 19 ans, à la Libération, vous aviez eu une attitude très très courageuse. Et vous vous trouvez à 19 ans, avec des responsabilités tout à fait officielles. Vous vous souvenez de vous voyez
oui.
De quoi je veux parler ?
Ah oui.
C'est
oui,
quand
oui.
même, c'est, ah, ça mérite d'être
voilà.
raconté, ça.
Il se trouve que, quelque temps avant la Libération, des jeunes acteurs qui étaient mes amis, disons des apprentis acteurs, ils étaient tous au cours Simon, le fameux
oui,
cours Simon,
le grand cours.
M'ont dit qu'ils allaient me remonter une pièce de Sacha Guitry. Et ils me disent, toi qui fais du droit, puisque je faisais... La Sorbonne, d'une part, pour l'histoire, de l'autre, le droit, pour plaire à mon père.
qui était avocat.
Voilà. Et ils me disent, il faudrait tout de même... Alors, j'ai dit, mais quoi, il faudrait tout de même ? Ils me disent, à ce moment-là, est-ce que tu veux bien aller demander l'autorisation à Sacha Guitry ? J'étais tout jeune, et en plus timide. Et il m'en est resté, d'ailleurs, de cette timidité. Ça ne se voit plus du tout.
C'est une élégance. Chez vous, c'est une élégance.
Et là, je me laisse faire. Et stupidement, à 11h, je vais sonner à la porte de Sacha Guitry, son hôtel du Champ de Mars. Et un valet de chambre m'ouvre. Et qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, voir monsieur Sacha Guitry, vous avez un rendez-vous ? Non. Et là, il claque la porte. Et lecteur de roman, j'ai mis le pied pour la bloquer. Alors, là est arrivée une dame qui avait tout entendu, Madame Choisel, la secrétaire de Sacha Guitry, que j'ai connue jusqu'à sa mort, et qui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, jeune homme ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, voir M. Sacha Guitry pour lui demander l'autorisation de jouer une pièce. Elle dit, écoutez, bon, je vais essayer. La grande colère du valet de chambre, elle me fait rentrer. Je m'assieds dans le hall de l'hôtel particulier et je regarde tous les tableaux. Le maître, vous savez qu'il avait une collection extraordinaire de peintures qui datait de sa jeunesse. Il a commencé par des estampes. Enfin, il avait une collection admirable. Et puis je dis, qu'est-ce que je fais là ? Je suis fou. Qu'est-ce que j'ai fait de leur dire oui ? Et puis l'escalier monte. Où s'était engagée Madame Choisel ? Au premier étage, il y a naturellement un balcon sur le hall. Et j'entends tout à coup « Montez, monsieur. Montez, si vous le voulez bien. » Je suis monté le cœur battant, j'ai dit « Je vais mourir. » Il m'a reçu pendant une heure. Et il a donné l'autorisation à mes amis acteurs de monter sa pièce. Mais, a-t-il ajouté, quand ils en seront au moment des répétitions générales, je viendrai les voir. Et parce que quelquefois, on n'est pas dans le sens de l'auteur. Je leur ai dit ça, ils ont cru mourir de bonheur. Mais c'était pas historiquement le moment. Peu de temps après, c'est le débarquement. Et puis, bien entendu, il n'est plus question de monter des pièces à Paris. Et lui, il est arrêté à tort par une bande de jeunes gens qui n'avaient pas de mandat comme soi-disant collaborateurs. Et vous savez qu'il y a eu un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction, après avoir cherché éperdument les preuves de collaboration, lui a donné un non-lieu. Et à ce moment-là, la presse de l'époque hostile à Sacha Guitry, pas tous les journaux, mais un certain nombre, dit « ce juge n'est pas objectif ». Alors, le pouvoir nouveau qui était sensible à ces critiques désigne un deuxième juge d'instruction qui refait toute l'enquête, qui voit des gens. Il dit « mais non, il n'a pas collaboré du tout, c'est même le contraire ». Et il a un deuxième mandat. Alors, je l'entends encore quand il me l'annonce parce que moi, j'avais gardé cette maison parce que le secrétaire l'avait demandé. Il dit, il m'a laissé ses collections et il m'a dit, « Madame, je vous laisse ma maison. » Et elle me dit, quand je suis allé après l'arrestation pour me renseigner, « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et je dis, « La police, mais monsieur, vous n'écoutez pas la radio. » Je lui dis, « Pas le temps. » La police est en grève. Alors, j'étais membre des équipes nationales, c'était... En partir de 1943, il y a eu beaucoup de bombardements sur la banlieue de Paris et on ne pouvait plus aller. Il fallait des volontaires pour aller fouiller les ruines. Et j'ai été un de ces volontaires. Et les équipes nationales se sont ralliées à la résistance pour la libération. Alors, j'avais un casque. J'avais une chemise marron avec un brassard. Elle m'a dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je participe à la libération. Elle me dit, mais vous connaissez les chefs? Vous savez, je suis un tout petit participant. Mais allez leur demander de faire garder la maison de M. Guitry. J'ai sauté sur mon vélo, et sur mon vélo, j'arrive au PC. Vous savez, c'était un moment assez extraordinaire, tout ça.
Bah, évidemment, oui.
Et elle a fait une lettre. « Monsieur Guitry m'a confié sa maison, il faudrait penser à ses collections qui sont celles de la France. » Et je demande le chef, on me dit « premier étage ». Mais oui, à cette époque-là, beaucoup de chefs, il faut dire. Il lit la lettre, il la passe à son acolyte, il lui dit « qu'est-ce que tu penses ?» Et là, l'acolyte dit « mais elle a raison, cette bonne femme !» Il reprend la lettre, me regarde, me pointe du doigt et me dit « t'es nommé !» Comme quoi, j'ai été nommé officiellement gardien de la maison de Sacha Guitry.
Vous vous rappelez votre âge à ce moment-là?
Il n'y avait pas encore 20 ans.
Oui, c'est ça. C'est un moment extraordinaire. Et là, malheureusement, le temps qui nous est imparti va s'achever. Sinon, on revient à votre carrière d'historien, cette passion émerveillée que vous avez pour l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire, au fond, vous a appris de plus sur l'homme et sur la vie? Si vous aviez une chose à nous dire de votre expérience de l'histoire, dans ce que ça a pu vous apprendre de l'homme et de la vie?
C'est qu'il n'y a pas une expérience continue de l'histoire. C'est que l'histoire permet à la nation et aux citoyens français de connaître le passé. Mais le passé change tout le temps. On ne peut pas dire qu'on puisse se fonder sur l'histoire pour se créer une doctrine. Mais il y a un sens quand même dans l'histoire. Et à force de raconter aux Français des histoires, moi c'était des histoires, mais des histoires vraies, on peut peut-être leur donner des raisons de comprendre leur pays.
Est-il exact que l'homme qui vous a le plus touché dans tous ceux dont vous avez abordé la vie et la carrière serait Auguste Blanqui, ce révolutionnaire du XIXe siècle? C'est vrai que vous avez une tendresse particulière pour lui?
Oui, curieusement. Parce que là, moi, si vous voulez, ce qui m'a retenu dans le choix de mes histoires, c'est l'originalité. Quelqu'un qui avait vraiment une personnalité énorme. Blanqui était un révolutionnaire. Il est allé très souvent en prison, longtemps, quelquefois. Oui. Aimé Blanqui, à peine sorti de prison, se remettait dans le cas d'y retourner. Et un beau jour, je me suis dit, parce que quand j'écris un livre, je me dis quel sera le suivant. Et là, un beau jour, je me suis dit, si je racontais la vie de Blanqui. Et j'ai écrit un livre sur Blanqui.
Est-ce que, au fond, vous auriez pu prendre comme devise, pour qualifier tout votre métier, cette phrase de votre prédécesseur à l'Académie française, c'était Jean Guéhenno, qui disait « Je voudrais servir non pas ma vérité, mais la vérité ». Pour un historien, c'est...
Oui. Ben, ma vérité. Oui, on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas truquer la vérité. C'est souvent ma vérité. Mais cette ma vérité, il faut l'avoir câblée, on l'a tenue en respect.
Mais est-ce que vous n'aviez pas un problème particulier à la télévision, en particulier avec la faiblesse des documents, parfois ? Est-ce que ça ne vous a pas amené dans votre carrière à accorder plus d'importance à des faits parce que vous disposiez d'images qu'à d'autres faits que vous ne pouviez pas illustrer ? Là, de la tentation du clochard d'aller chercher sa bouteille sous le réverbère, quoi.
Oui.
Ça vous est pas arrivé, ça ?
Non, pas du tout. D'abord, Alain Decaux raconte. Alain Decaux raconte qui a duré 20 ans. Eh bien, c'était des histoires vraies.
Ouais.
Il n'y avait pas d'imagination du tout. Alors, bon, mais c'est comme ça.
Donc, il n'y avait pas de réverbère.
Non.
Au fond, est-ce que le plus grand hommage que je puisse vous rendre, n'est-ce pas de vous dire que vous avez été fidèle à ce que représentait votre grand-père, instituteur de la grande Troisième République de Jules Ferry ?
Oui, mon grand-père, c'était l'instituteur de cette époque-là. Il a pris sa retraite après la Première Guerre mondiale. Et les historiens sont obligés de dire que les instituteurs de la République ont aidé la République à exister. Ils avaient la foi. Et Dieu sait que mon grand-père avait la foi.
Les hussards noirs, quoi.
Oui, voilà.
Alain Decaux, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc publié chez Plomb, Dictionnaire amoureux de Alexandre Dumas. Un livre écrit avec toute la verve, la passion et le savoir des Alain Decaux raconte qui ont subjugué des millions et des millions d'entre nous. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci à vous.